Et dans cette édition spéciale, jusqu'à 13h, on commence bien sûr par le dernier journal, les dernières infos. Rebonjour Lise.
Rebonjour. Depuis vendredi soir, l'armée israélienne est rentrée dans Gaza. Elle intervient avec des blindés, des unités d'ingénierie, des drones, des hélicoptères de combat et des fantassins dans le nord de la bande de Gaza. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la guerre en Israël. Et les soldats de Tsahal qui sont rentrés dans la bande de Gaza hier ont hissé le drapeau israélien sur l'une des maisons de la zone et partagé cette vidéo en ligne. On débute ce journal en écoutant le soldat qui raconte ce moment symbolique.
Trois semaines après les crimes horribles du 7 octobre, les soldats du 52e bataillon de la 401e brigade hissent le drapeau d'Israël au cœur de Gaza, le long de la plage. Nous n'oublierons pas, nous ne nous arrêterons pas jusqu'à la victoire.
L'alerte à la roquette a retenti il y a moins d'une heure dans les villes de Tel Aviv, Rishon LeZion, Holon, Ra'anana, Ramat HaSharon et Kfar Saba.
Israël va permettre une augmentation considérable de l'aide à Gaza dans les prochains jours. C'est ce qu'a déclaré un responsable ce matin, appelant les civils palestiniens à se rendre dans ce qu'il a décrit comme une zone humanitaire dans le sud du territoire, Lise.
Au cours de la semaine à venir, nous prévoyons d'augmenter considérablement la quantité d'aide destinée à Gaza en provenance d'Égypte, a déclaré le colonel Elad Goren du COGAT, l'agence du ministère israélien de la Défense, qui coordonne les relations avec les Palestiniens.
Les avions de combat de l'armée israélienne ont attaqué plus de 450 cibles militaires du Hamas dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'unité du porte-parole de l'armée israélienne.
Oui, absolument. Selon Channel 12, des terroristes du Hamas sont sortis d'un tunnel dans le nord de la bande de Gaza et ont essayé de tuer des soldats de Tsahal ce matin qui opéraient dans la zone. L'attaque a été contrée par les soldats israéliens et environ 20 terroristes ont été tués lors de l'affrontement. Parmi les autres cibles attaquées se trouvaient des quartiers généraux militaires, des postes d'observation et des positions de tir anti-char du Hamas. Les équipes de soldats combinés ont attaqué des escadrons terroristes qui tentaient de s'en prendre aux soldats de Tsahal. Dans la nuit de samedi à dimanche, un officier et un soldat de Tsahal ont été blessés et tous deux évacués à l'hôpital en Israël. Depuis vendredi soir et le début de cette incursion terrestre confirmée par le porte-parole de l'armée Daniel Hagari hier soir, les forces israéliennes avancent prudemment dans Gaza. Elles ont découvert et attaqué une maison piégée. Des combattants des unités blindées ont guidé les hélicoptères de combat qui ont aussi pu bombarder un point de rencontre des terroristes du Hamas dans le bâtiment.
Et vendredi soir avant l'incursion, Daniel Hagari avait également pris la parole et apporté les preuves de ce que l'on sait en Israël depuis longtemps, à savoir que le QG du Hamas à Gaza se trouve sous l'hôpital Shifa.
Oui, et il a ajouté même qu'il y avait de l'essence dans les hôpitaux à Gaza et que le Hamas utilisait cet hôpital, l'hôpital Shifa le plus grand de Gaza, comme les autres, comme bouclier humain pour protéger ses hommes sous terre. Vous savez qu'il existe un métro souterrain, a dit Daniel Hagari, des kilomètres de tunnels, les terroristes du Hamas se cachent à l'intérieur, toute leur base se trouve en dessous des hôpitaux, des mosquées et des écoles, c'est leur philosophie cynique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est alarmé ce matin d'une situation, je cite, de plus en plus désespérée dans la bande de Gaza, déplorant qu'Israël y ait, je cite toujours, intensifié ses opérations militaires.
La situation à Gaza devient de plus en plus désespérée d'heure en heure, a dit Antonio Guterres. Je regrette qu'au lieu d'une pause humanitaire cruellement nécessaire, soutenue par la communauté internationale, Israël ait intensifié ses opérations militaires. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une visite à Katmandou, la capitale du Népal. La ministre de la Défense tchèque appelle son pays à quitter l'ONU, une organisation, je cite, complice des terroristes du Hamas.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre Benny Gantz ont tenu hier soir une conférence de presse à la Kiria, à savoir le QG de la Défense à Tel Aviv, Lise.
Oui, Benjamin Netanyahou, qui a logiquement pris la parole en premier, a confirmé lui aussi l'incursion terrestre à Gaza et rappelé ses buts. Il a souligné que la décision d'entrer à Gaza avait été adoptée à l'unanimité par le cabinet de guerre et le cabinet de sécurité, en précisant bien que c'était une décision qui avait été prise après mûre réflexion. Il a ajouté que les combattants de Tsahal savent que tout le peuple les soutient, que la guerre serait dure et longue et qu'il s'agissait d'une deuxième guerre d'indépendance. On écoute un extrait de son discours.
Citoyens d'Israël, la nuit dernière, des forces terrestres supplémentaires sont entrées dans Gaza, marquant ainsi le début de la deuxième phase de la guerre, dont l'objectif est de détruire les capacités militaires et politiques du Hamas et de ramener nos concitoyens kidnappés. La Torah nous dit de nous souvenir d'Amalek. Nous nous souvenons et nous combattons. Nos soldats et nos combattants qui sont présents à Gaza, autour de Gaza et dans les autres régions du pays, rejoignent la lignée des héros d'Israël qui existent depuis plus de 3000 ans, de Josué jusqu'au Maccabim et Bar Korba, et jusqu'aux héros de 1948, de la guerre des six jours, de la guerre de Kippour et des autres guerres d'Israël. Nous avons toujours dit « plus jamais ça ». Plus jamais ça, c'est maintenant. J'ai le cœur brisé en rencontrant une fois de plus aujourd'hui les familles des personnes enlevées. Nous déploierons tous nos efforts pour les rendre à leurs familles. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité. Le cynisme de nos ennemis n'a pas de limite. Ils utilisent leur propre population comme boucliers humains. Ils utilisent les hôpitaux comme cachette pour leurs terroristes et comme station d'essence pour mener leur guerre. Beaucoup de gens dans le monde comprennent maintenant ce qu'Israël disait toutes ces années. Israël ne mène pas seulement sa propre guerre, mais une guerre pour toute l'humanité. Une guerre de l'humanité contre la barbarie. Nos alliés partout et même nos partenaires dans le monde arabe comprennent que si Israël ne gagne pas, ils seront les suivants. C'est notre mission, notre but dans la vie. Ensemble, nous vaincrons. Benjamin Netanyahou a ensuite indiqué qu'Israël continuait de lancer son appel à la population du nord de la bande de Gaza pour lui dire de s'en aller, pour se rendre dans une région plus sûre dans le sud de l'enclave palestinienne. Ensuite, toujours lors de la conférence de presse qui se tenait samedi soir à la Kiria, le QG de défense à Tel Aviv, le ministre de la Défense Yoav Gallant a pris la parole après le Premier ministre Lise.
Oui, il a tout d'abord affirmé qu'il accordait toute sa confiance aux chefs d'état-major, aux officiers de Tsahal, aux soldats, aux chefs du Shin Bet et aux chefs du Mossad, et indiquait lui aussi que ça ne sera pas une guerre courte. Et surtout, il a fait de nombreuses références aux otages et à leurs familles. Yoav Gallant a déclaré « Je veux que les familles des otages sachent que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener les personnes qui ont été enlevées. Et je dis bien tout, nous affrontons une situation, une réalité que nous n'avons jamais connue auparavant. Ce n'est pas un objectif secondaire dans cette guerre, c'est un objectif premier de la plus haute importance et nous nous comportons comme tel. » Une déclaration qui tombait à pic juste après que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar ait déclaré samedi que l'intensification de l'offensive israélienne à Gaza lancée vendredi soir avait considérablement compliqué les efforts de Doha pour parvenir à la libération des otages. Cette escalade rend les choses beaucoup plus difficiles, a déclaré Majed Al-Ansari à CNN samedi, tout en notant que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le chef du terrorisme du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, ont continué à faire preuve, je cite, d'ouverture d'esprit sur la question.
Et enfin, après Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, c'était au tour du ministre Benny Gantz de parler.
Oui, Benny Gantz qui a rappelé qu'Israël est face à une organisation humanitaire inhumaine qui utilise des femmes, des bébés comme bouclier humain pour se sauver et qui mène une campagne psychologique intense qui ment au monde, qui abuse des familles et qui essaye de déchirer la société israélienne. Mais Benny Gantz l'a assuré, ils échoueront. Les meurtriers et les kidnappeurs d'enfants méritent la mort. Une première intervention donc pour Benny Gantz aux côtés du ministre de la Défense et du Premier ministre israélien depuis qu'il est rentré dans ce gouvernement d'urgence.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a supprimé le post qu'il avait publié pendant la nuit sur X, anciennement Twitter, contre les chefs du Shin Bet et du renseignement militaire, après avoir subi de vives critiques, notamment de la part du ministre Benny Gantz et du chef de l'opposition Yair Lapid.
Oui, dans le post qu'il a supprimé, Benjamin Netanyahou avait écrit « Contrairement aux fausses allégations, à aucun moment et à aucun stade, d'intention belliqueuse de la part du Hamas ». Au contraire, tous les responsables de la sécurité, y compris le chef du renseignement militaire et le chef du Shin Bet, ont estimé que le Hamas était dissuadé et cherchait à trouver un accord. C'est l'évaluation qui a été présentée au Premier ministre et au cabinet par tous les responsables de la sécurité et de la communauté du renseignement jusqu'au déclenchement de la guerre. On reviendra sur cette division qui commence entre les chefs du gouvernement avec notre invité Stéphane Vanisch d'ici une dizaine de minutes.
L'Égypte a mis en garde Israël contre toute opération militaire le long du corridor de Philadelphie et a rejeté les excuses présentées par Israël pour les dommages causés à un poste de garde de l'armée égyptienne, selon des sources égyptiennes citées par le journal Al-Arabi Al-Jaïd du Caire. C'était tôt ce matin. Fin de ce journal. Merci Lise. Édition spéciale, donc, jusqu'à 13h. Nous sommes ensemble avec des invités dans cette, je le rappelle, édition spéciale. Et nous sommes en ligne maintenant avec Son Excellence l'ambassadrice de l'État d'Israël en Belgique, Edith Rosenzweig-Abou. Lise, je vous laisse avec notre invité.
Mrs. Ambassador, thank you for being with us this morning. Ambassadrice Edith Rosenzweig-Abou, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Thank you, Liz. Good morning.
So now that the war has officially begun, what diplomacy can do, Edith? Qu'est-ce que la diplomatie peut faire maintenant que la guerre a véritablement commencé?
Well, the very famous saying by war historian, the diplomacy is a component in the war effort. So we are working very hard to ensure that we would still have legitimacy to continue working like the Americans had when they were fighting ISIS, to do our job and to completely eliminate the threat of Hamas. We are working on all fronts in Europe and in the US, and I think this is 100% a part of the war effort.
Alors, il y a effectivement un proverbe très connu qui dit que la diplomatie, c'est la guerre par d'autres moyens. Et donc, oui, nous continuons à travailler, bien entendu, et nous avons toute légitimité pour ça, exactement de la même manière que les États-Unis quand ils étaient en train de combattre l'État islamique. Et nous devons tout faire pour éliminer la menace qu'est le Hamas. Et on travaille, bien entendu, sur les deux fronts, c'est-à-dire et celui des États-Unis et celui de l'Europe. Et je suis persuadée que ça fait absolument et 100% partie de l'effort de guerre. Talking about diplomacy in the United Nations, Ambassador, again, Antonio Guterres had words that we don't want to hear, and Tchéquie has asked that it has to leave, and even his country may leave the United Nations, that is, accomplice of the terrorist organization Hamas. Les Nations Unies ce matin, encore un scandale avec Antonio Guterres qui a eu des paroles malheureuses sur Israël et le ministre de la Défense de Tchéquie qui considère que l'ONU est devenue complice de l'organisation terroriste Hamas.
Well, we see very We take very gravely what Mr. Gutierrez said. The UN is not always the moral compass to the world. I have to say that I would like to remind everyone, no one remembers, that after the Entebbe operation, Israel was denounced in the General Assembly for infringing on Uganda's territorial integrity. So it is not always that the UN finds the moral position that it needs to take.
Alors, effectivement, on prend tout à fait sérieusement et gravement les paroles de Antonio Guterres, mais il faut se rappeler que les Nations Unies ne sont pas toujours loin de là une boussole morale pour le monde. Rappelons-nous par exemple qu'après l'opération d'Entebbe où Israël était allé sauver ses otages, il avait été dénoncé par les Nations Unies pour avoir envahi le territoire de l'Ouganda. Donc oui, une fois de plus, parfois l'ONU se trompe, bien entendu. Talking about diplomacy again, we were supposedly friends with Turkey this past month and even the past year. And now we heard a lot of people against Israel in Turkey, which is not such a surprise, but also very hard words from Recep Tayyip Erdogan, the Turkish president. Pour rester dans la diplomatie, on a eu ces derniers mois, et peut-être même depuis un an et demi, plutôt une bonne relation avec la Turquie. Et là, depuis le début de la guerre, il y a des manifestations intenses en Turquie pour critiquer Israël. Et le président Recep Tayyip Erdogan a eu hier des mots excessivement durs sur Israël.
Relationships with countries like Turkey are not defined as friendships. They're not our relationship with the US or with European countries. These are not countries that are similar to us in sense of democracy and other senses. At the end of the day, it was a relationship built on joint interests. And currently, Erdogan reevaluated his interests and came to the conclusion that his interests are elsewhere. We were never under the illusion that Erdogan was our friend. We've seen how he acted around the flotilla and around other incidences of conflict between Israel and the Palestinians. We know that his party is Islamic. We know that his party is not pro-Israeli. So we were not surprised, but we are disappointed.
Alors, il faut comprendre que la relation que Israël entretenait avec la Turquie n'est pas définie comme une amitié. C'est pas la même chose que ce qu'on peut dire avec les États-Unis ou les pays européens. Il faut comprendre que c'était une relation qui est basée sur des intérêts communs et que visiblement le président turc a décidé de réévaluer ses intérêts. En tout cas, nous n'avons jamais eu l'illusion que la Turquie était un véritable ami d'Israël. On l'a d'ailleurs vu dans l'histoire avec plusieurs incidents comme celui de la flottille ou d'autres. Nous savons pertinemment que le parti de Recep Tayyip Erdogan est un parti islamique qui n'est pas pro-israélien. Donc, nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes déçus, oui, bien entendu. Belgium has been quite silent during the last days, Ambassador. Why do you think the country doesn't want to get so much involved in that conflict between Israel and Hamas? La Belgique a été assez silencieuse ces derniers jours. Pourquoi est-ce que vous pensez ou est-ce que vous pensez qu'elle ne veut pas se mêler ou le moins possible de son conflit entre Israël et le Hamas?
I think many people in Belgium understand, including in the political system, understand the threat of global jihad. Because of the experience we had here in Brussels, you had here, I was here then too, so we had here in Brussels. And they understand the danger and they understand the similarities between Hamas and ISIS. And they understand that if 170-something casualties in France and in Brussels were enough to launch an ISIS campaign, although there were civilian casualties there as well, there is logic to what Israel is doing, trying to eliminate the infrastructure of Hamas. So I think there is an understanding for this logic in several parties. in Belgian politics. But there is also a lot of pressure from the extreme left and the left and from the Muslim population. So I believe it is a balance of those interests.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, comprennent à quel point la Belgique n'est pas non plus épargnée par la menace du terrorisme et qu'ils comprennent le danger et qu'ils peuvent faire le parallèle entre Hamas et l'État islamique. Je crois que cette prise de conscience, elle existe dans plusieurs partis politiques et que tout le monde se rappelle du nombre de victimes que le terrorisme a déjà fait à Bruxelles, en Belgique ou même en France, et que ça a été nécessaire de lancer une grande campagne internationale contre l'État islamique. Ils comprennent donc qu'il y a une nécessité pour Israël d'éliminer le Hamas, mais il y a également une énorme pression de la part de la gauche et de l'extrême gauche, et aussi de la population musulmane. Et donc, il faut sans doute faire un équilibre par rapport à ça. Talking about politics in Belgium, the discourse of the Raoul Edebouw, the head of the PTB, was totally against Israel and as what the extreme left said in France, he didn't want to qualify Hamas as a terrorist organization. And so the MR asked if there can be in Belgium a sanitarian cordon against that party. Alors le PTB, par la voix de son président Raoul Edebouw, a eu des mots très malheureux en refusant de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et il a même déclaré « Je ne peux les qualifier de terroristes que si on qualifie de terroristes l'armée israélienne ». Et il a même ajouté « Israël est plus terroriste que le Hamas ces 10 dernières années ». Le président du MR, Georges-Louis Boucher, a demandé qu'un cordon sanitaire soit fait pour faire face au PTB après ses propos ce week-end.
Well, I will not comment about the Emir because it's not for ambassadors to interfere in internal politics. But I will say that I find it very disturbing and irresponsible that a terror organization that was defined by the European Union, which means that legally it was defined also in Belgium, is something that any parliamentary group, that any party can say they don't accept. I feel that is extremely irresponsible. I am not surprised because I've seen that PTB invited some terrorists to their annual conference in Ostend in the summer. So maybe they're just afraid that they will not have enough speakers. But I find it extremely irresponsible because if a party cannot align with UN definitions of terror, there is a problem.
Alors, je ne veux pas commenter la réponse du MR parce que ça n'est pas le rôle d'un ambassadeur d'interférer dans la politique intérieure. Mais ce que je peux dire en revanche, c'est que les propos du PTB sont absolument irresponsables. Il faut se rappeler que le Hamas a été défini comme organisation terroriste par l'Union européenne et donc cela doit s'appliquer à tous les partis. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'acceptent pas cette définition. Maintenant, je ne suis évidemment pas surprise de la position du PTB qui invite déjà lors de sa convention nationale à Ostende un certain nombre de terroristes comme intervenants. Peut-être qu'effectivement, ils ont peur de ne pas avoir assez de personnes qui viennent parler. En tout cas, ce sont des propos totalement irresponsables et absolument inadmissibles. Thank you so much, ambassadeur Edith Rosenzweig-Abou, ambassadrice d'Israël en Belgique, d'avoir été avec nous ce matin. Une bonne journée et bon courage à vous.
Merci beaucoup, Lise. Merci.
Merci donc à Edith Rosenzweig Abou, ambassadrice de l'État d'Israël en Belgique. Lise, notre invité suivant, eh bien, va nous permettre peut-être de décrypter un peu mieux les discours politiques, quels qu'ils soient, puisque nous accueillons maintenant Stéphane Vanisch, spécialiste de l'analyse du discours politique, justement.
Oui, et chercheur à l'Université de Tel Aviv. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on va commencer par la fameuse conférence de presse qui a eu lieu hier soir, Stéphane Vanisch, où on a pu voir, habillé en noir et très uni, normalement, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre sans portefeuille Benny Gantz, qui étaient tous les trois au QG de la Défense à Tel Aviv. Comment vous avez trouvé leurs propos et la complémentarité de leur discours?
Comment dirais-je? Le propos était juste, à part quelques bémols qu'on va voir après. Le propos était juste et il y avait une espèce d'unité de façade, en tout cas, qui était rassurante. Après, complémentarité ou juxtaposition, il faudra qu'on réfléchisse un peu jusqu'où ça a été. Mais en tout cas, c'est évident qu'on avait l'impression que ça fonctionnait à peu près, c'est-à-dire qu'on avait une unité de vue, une unité de décision, et ça c'est très important en ce moment, et plutôt vu les premiers résultats, vu les deux premiers jours où on est rentré dans Gaza, même si on ne le dit pas comme ça, mais ça, de facto c'est ce que ça veut dire, on voit bien la puissance de la préparation et la puissance de l'armée israélienne. Et donc c'est plutôt rassurant, le seul bémol ça a été bien sûr après le tweet dont on parlait de Netanyahou, mais c'est vrai que ça paraissait, comment dirais-je, suffisamment unis pour que ça fonctionne, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça avec la problématique du projet de loi de réforme judiciaire.
Alors donc Benjamin Netanyahou a tweeté pendant la nuit un tweet de justification personnelle, j'ai envie de dire, pour dire contrairement aux bruits qui ont couru, je n'avais pas été averti de cette préparation de l'opération du Hamas, et grosso modo il a blâmé à demi-mot, on va dire, les responsables de la sécurité, y compris le chef du renseignement militaire et le chef du Shin Bet.
Oui, à demi-mot, presque à mot complet. Ouais. Alors, ça montre bien d'abord que le Likoud est complètement perdu et ne comprend pas ce qui se passe dans la société israélienne. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en guerre, on a nos enfants au front, il y a quand même beaucoup, beaucoup de mobilisés, donc ça concerne beaucoup de familles. Et les justifications politiciennes d'après-guerre n'ont pas de mise aujourd'hui. Et c'est une erreur profonde de communication qui n'est pas habituelle chez Netanyahou, qu'une profonde de communication d'incompréhension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Likoud, visiblement, réfléchit plutôt à l'après-guerre qu'au pendant la guerre, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai problème, ce qui montre que le Likoud n'est plus un parti d'État, Netanyahou n'est plus un chef d'État, il n'y a plus d'intérêt général, il y a juste l'intérêt partisan. Et ça, à mon avis, politiquement, ça va leur faire très mal. La deuxième chose, c'est que Netanyahou dévie le débat en faisant ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, je pense que c'est vrai que, comme les chefs sécuritaires n'ont pas prévenu le commandant qui surveille la frontière de Gaza, ni l'aviation, je suppose qu'ils n'ont pas prévenu le Premier ministre. Sauf que la PID dit, attention, avec les informations qu'on avait, j'avais moi-même prévenu que ça pouvait être compliqué. Donc c'est déjà plus compliqué. D'un seul coup, ça se complexifie. Mais surtout, la responsabilité de Netanyahou n'est pas sur l'ordre sécuritaire, ce n'est pas son rôle en tant que Premier ministre, mais sur le niveau politique. Et au niveau politique, il y a trois choses qu'il ne faudra pas oublier après la guerre. C'est d'abord, c'est lui qui a été à la manœuvre pour que le Hamas soit toujours présent contre l'OLP, et qui fait qu'on a donné de plus en plus de puissance au Hamas, notamment accepter que le Qatar donne soit 50 à 70 millions de dollars par mois en petite coupure au Hamas. On voit bien ce qu'ils en ont fait. Et donc là, c'est sa responsabilité politique et de personne d'autre. La deuxième chose, c'est Gilad Shalit. Le fait d'avoir accepté, in fine, de récupérer Gilad Shalit contre 1000 prisonniers, toute la direction actuelle du Hamas qui a commis le 7 octobre était des prisonniers échangés avec Gilad Shalit. Donc, cet échange avec Gilad Shalit est insupportable. Et donc, c'est lui qui l'a décidé. Il y avait la pression, bien sûr, populaire.
Et par contre, il a retiré ce tweet. Ouais. J'ai l'impression qu'on a perdu Stéphane.
Normalement, il est toujours dans l'appel. On l'a récupéré.
Pour ne pas réagir face à une telle attaque, notamment de génocide, de crimes contre l'humanité contre nous. Et donc, du coup, lui aussi, c'est lui qui a entretenu quand même la tension à cause de cette réforme mal ficelée, cette réforme judiciaire mal ficelée, même si elle pouvait être pour une part légitime, on en a beaucoup parlé dans votre antenne, mais en tout cas pas de cette manière-là. Et donc du coup, ça c'est sa responsabilité politique et c'est sur ça qu'il devra, à mon avis, se justifier. Ce n'est pas pour savoir s'il savait ou pas, 2 heures avant, si le Hamas allait attaquer ou pas.
Non, et alors donc il a évidemment enlevé ce tweet assez rapidement, puisque dès ce matin, hein, c'était plus le cas, après que Benny Gantz l'ait repris aussi là-dessus et que la polémique ait rapidement enflé sur les plateaux de télé israéliens ce matin. Ça contraste quand même, Stéphane, avec c'est la solennité du discours de Benjamin Netanyahou la semaine dernière qui disait… chacun va devoir prendre ses responsabilités, à commencer par moi. C'est pas le moment maintenant. On doit d'abord gagner cette guerre et ensuite on verra. On comprend pas très bien comment, pile à ce moment-là, il fait une gaffe, je dirais un peu de débutant, non ?
Alors, d'abord, oui, une gaffe de débutant qui fait qu'on voit bien que c'est Benny Gantz qui devient le chef, en fait, du système. Mais ça, c'est un vrai souci pour lui, parce qu'en fait, c'est quand Benny Gantz dit « on arrête la récréation est arrêtée ». Et donc ça, c'est nouveau et c'est un rapport de force inversé qui, à mon avis, électoralement, coûtera cher au Likoud. La deuxième chose qu'il faut savoir, et que pas assez de commentateurs l'ont dit à l'époque, enfin au moment du discours, le discours de Netanyahou n'était pas fait pour la nation israélienne. Le discours de Netanyahou était fait pour le Likoud, pour les électeurs du Likoud. Et je pense que ce tweet était également fait pour les électeurs du Likoud et pas pour la nation israélienne. Pourquoi ? Parce que simplement, les électeurs sont en train de lâcher Netanyahou, mais à l'intérieur même du Likoud, on est en train de lâcher Netanyahou. Et donc, du coup, il essaye de se sauver et coûte que coûte, ce qui est complètement irresponsable politiquement. Parce que je pense que c'est celui qui a le plus de sincérité qui va gagner électoralement. Et deux, parce que les petits calculs de ce type-là en pleine guerre sont impardonnables. Mais le Likoud, pour une part, et en tout cas Netanyahou, est obsédé ou sont obsédés du maintien au pouvoir après-guerre, alors qu'on n'a pas, on commence seulement de commencer la guerre, entre guillemets. Et donc, du coup, on s'aperçoit de ce décalage dont je parlais tout à l'heure, et du coup, de tweets irresponsables, contre-productifs que cela produit, parce que tout simplement que le Likoud a oublié l'idée d'intérêt général de l'État d'Israël, du peuple israélien, du peuple juif, au profit de son maintien au pouvoir coûte que coûte. Et l'exemple après la guerre de Kippour des travaillistes ont bien montré que ça ne fonctionnera pas, à mon avis. Les erreurs ont été trop profondes, ça a fait trop de dégâts, et y compris psychologiquement. Le fait que, il ne faut pas oublier qu'il y a le dernier crime, c'est le premier crime contre l'humanité sur le peuple juif depuis 1945 qui s'est produit, et ça s'est produit en Israël, alors qu'Israël a été fait contre ça. Et donc, du coup, il y a une espèce de négation, et c'est là où, alors, je ne suis pas d'accord avec Netanyahu pour dire que c'est une nouvelle guerre d'indépendance. Non, c'est une nouvelle guerre existentielle, ce qui est un peu différent, de réaffirmation de ce que nous sommes. Et je dirais que l'état-major l'a bien compris, vu, je dirais, la force des armes que nous envoyons sur Gaza montre bien que nous, pour la première fois depuis 40 ans, nous remontrons à nos ennemis ce que nous sommes capables de faire et que nous sommes toujours israéliens.
Mais c'est quand même dommage qu'on ait dû attendre d'avoir un massacre digne des pogroms de la Shoah pour en arriver là, Stéphane Vanisch.
C'est la faute originelle de Netanyahou et de plein d'autres. C'est-à-dire qu'à force de ne pas vouloir de faire de mort, à force que l'armée israélienne voulait éviter, parce qu'on était beaucoup critiqué, mais aussi de manière éthique et de manière, je dirais, exagérée quelque part, de ne pas vouloir faire de mort dans une guerre, on devenait ridicule. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un bombardement du type qu'on a connu avant-hier ou hier à Gaza, on ne l'a pas fait depuis la guerre du Liban, de la première guerre du Liban. Ouais. C'est-à-dire que ça fait 41 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les générations entières de terroristes du Hamas ou du Hezbollah, mais aussi des militaires israéliens, n'ont jamais connu ça. Moi, j'avais 19 ans quand j'ai vu ça d'un point de vue de ma vie. Et donc, si vous voulez, il y a une génération entière qui ne savent plus ce qu'est la réalité de la puissance de Tsahal. Et cette guerre est essentielle et existentielle pour montrer à tous nos ennemis ou tous ceux qui aimeraient le devenir que les petites réponses que nous faisions au Hamas ou que ce qu'on fait dans les territoires dans Judée-Samarie n'est rien avec ce qu'on est capable de faire, en sachant, off the record, que nous ne sommes pas au maximum de notre puissance.
Oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, on suivra malheureusement ça, parce que la politique est quand même au deuxième plan dans les priorités des Israéliens, en tout cas de ce que j'entends d'une manière générale. Et il ne faudrait pas que ça change tant qu'on n'a pas terminé tout ce qu'on doit faire là-bas. Merci beaucoup Stéphane Vanisch, chercheur à l'Université de Tel Aviv, spécialiste de l'analyse des discours politiques. À bientôt et bon courage à vous aussi.
Merci beaucoup à vous aussi également. Au revoir.
Merci donc à Stéphane Vanisch. Lise, on continue cette édition spéciale jusqu'à 13h, édition spéciale en ce dimanche 29 octobre, étant donné que depuis vendredi, eh bien, la guerre a pris une nouvelle ampleur avec l'entrée massive de Tsahal dans la bande de Gaza, que ce soit par terre bien sûr, par mer, mais aussi de manière aérienne. Et notre invité suivant, Lise, c'est un peu particulier, vous aviez envie aussi d'avoir le témoignage d'un arabe israélien.
Oui, alors je pense que c'est important que nos auditeurs entendent ce témoignage. Youssef Haddad est un arabe israélien originaire de Haïfa. Moi, je l'ai connu personnellement quand je travaillais chez I24 News. Il a servi dans Tsahal. Il est même devenu commandant des Golani. En 2006, il a été blessé par un missile du Hezbollah. Et depuis, il est devenu un fervent partisan d'Israël. Il dirige une organisation qu'il a fondée, qui s'appelle Together Vouch for Each Other, qui essaye d'intégrer le secteur arabe à la société israélienne dans son ensemble. C'est grâce à lui notamment que de nombreux Arabes se sont engagés dans Tsahal. Aujourd'hui, il est aussi très connu sur les réseaux sociaux, sur lesquels il fait énormément de vidéos et de témoignages sur le terrain. Et ce week-end, il a poussé un coup de gueule et en même temps un témoignage vraiment émouvant sur la chaîne israélienne numéro 14. On l'écoute et vous allez nous le traduire en français, Didier.
Bien. Nous accueillons Youssef Haddad. Merci d'être venu dans notre émission. Tu fais un travail exceptionnel sur les réseaux sociaux. Quel message as-tu à transmettre ce soir ? Je suis obligé d'admettre que, particulièrement aujourd'hui, j'ai craqué. Depuis ces deux dernières semaines, je vois des atrocités. Une partie d'entre elles, je les partage parce que je veux que le monde voie ces atrocités. Mais aujourd'hui, je suis allé à la conférence de presse du porte-parole de Tsahal, réservée exclusivement à la presse étrangère, et pendant 43 minutes, nous avons visionné des contenus qui n'ont jamais été diffusés nulle part, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. Un passage particulier a montré deux enfants d'à peine 10 ans qui pleuraient avec leur père dans une cour. Ils essayaient de rentrer dans la réserve. Les terroristes du Hamas les poursuivaient, ont tiré sur le père devant les deux enfants et ont traîné de force les enfants à l'intérieur de la maison pendant que tout est filmé dans la maison, car dans la maison il y a des caméras. Le premier enfant était blessé à l'œil, le deuxième saignait, les deux étaient gravement blessés. Et un des enfants, pendant que ce maudit terroriste ouvrait le frigo pour boire du coca, l'enfant crie « Tuez-moi, je veux mourir !» Comment un enfant de 10 ans doit-il prononcer des mots pareils ? Si quelqu'un dans ce pays a d'autres plans que celui d'exterminer le Hamas, les éliminer un par un, s'il y a quelqu'un qui a d'autres plans que ça, qu'il se lève, démissionne et dégage, et qu'il laisse à d'autres personnes diriger et accomplir les actions nécessaires pour nous protéger. Ce que j'ai vu dans ces images et dans ces vidéos, d'autres journalistes internationaux l'ont vu. Et si eux aussi ne viennent pas en témoigner, ce sera une honte. Et ce n'est pas une honte d'avoir mal. Ce n'est pas une honte de parler comme moi, là, maintenant, car ma douleur vient de l'intérieur. Comment diable un enfant d'à peine 10 ans peut-il dire « tuez-moi » ? Où sommes-nous ? Que nous est-il arrivé ? Comment avons-nous donné la possibilité jusqu'à présent au Hamas d'ouvrir leur bouche ? Celui qui veut me traiter d'extrémiste parce que j'appelle à éliminer le Hamas un par un, alors je suis extrémiste. Les atrocités que j'ai vues pendant ces 43 minutes, des histoires que si je les raconte, nous devrions couper l'antenne, car il est interdit de les diffuser. Où sommes-nous, les gars ? Vous comprenez dans quelle réalité nous trouvons ? Alors je vous en supplie, ça suffit avec la droite ou la gauche, ça suffit avec les religieux ou laïcs, ça suffit avec les arabes ou les juifs, pour l'amour du ciel. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont brisés, ils nous ont humiliés. En un instant, il est temps que nous les humilions à notre tour. Il est temps que nous les brisions à notre tour. Et tu sais quoi ? Nous avons la force de le faire. Nous avons la capacité de le faire. Permettez à Tzahal de le faire. Permettez à Tzahal de leur parler dans la langue du Moyen-Orient. Permettez à Tzahal de leur parler en arabe. Nous avons la capacité de le faire. Et il faut maintenant la volonté. Je veux juste te corriger. Non, c'est à cet instant. Je te dis à cet instant. À cet instant du 7 octobre, n'éludons pas les choses. Après le 7 octobre, je suis d'accord avec toi. Un instant, je suis d'accord avec toi et non seulement ils ne nous ont pas. Si ce n'est pas évident, je parle du 7 octobre. Parce qu'après le 7 octobre, l'unité que j'ai vue et je suis sur le terrain. Qu'attends-tu quand tu dis de donner à Tzahal la possibilité de leur parler en arabe ? Qu'attends-tu qu'ils fassent concrètement ? Tout d'abord, que se passe-t-il ici en Israël ? Je suis depuis 2 semaines et demie sur le front de la communication, même dans le monde arabe. Une seule menace de la société arabe, je n'ai pas reçue. Tu sais pourquoi ? Toute personne qui publie même une petite story en faisant l'apologie du Hamas sur les réseaux sociaux a été aussitôt arrêtée. Des centaines ont été arrêtées par la police. Pour la première fois, quand ils ont incendié le magasin de vélo de Taïbé, tu sais pourquoi ils l'ont incendié ? Parce que son propriétaire avait fait don de quelques vélos à des enfants du Sud. Le lendemain, ils ont vandalisé son magasin et l'ont brûlé. 2 jours après, ils ont arrêté les suspects. Où as-tu entendu que la police d'Israël fait ça ? La police d'Israël parle arabe en ce moment et dissuade les extrémistes. Et quand il faut le dire, je dis bravo. Et tu sais quoi ? Tu te souviens de la photo qui avait affiché la photo de notre magnifique personne âgée qu'ils ont kidnappée et l'ont tournée en dérision ? Ils sont rentrés avec un bulldozer et ont détruit la pizzeria. C'est ça, parler arabe. Je veux maintenant que Tzahal fasse ça aussi. À Gaza, rentrer, et je te dis sans avoir honte, après avoir atteint tous les objectifs, après s'être assuré d'avoir nettoyé tous les terroristes du pays d'Israël, nous devons rentrer à Gaza et éliminer le Hamas. Et oui, voilà, je vous le dis, la conquête intégrale et temporaire de Gaza, et seulement après avoir nettoyé le pays, et ça veut dire 30 000, 40 000 terroristes tués, ou prisonniers, peu importe, après avoir fini ça, on passera à l'étape qui s'appellera zone temporaire militaire, dans laquelle Tzahal aura le contrôle de tout Gaza, sans avoir l'intention de dominer à long terme. Ça doit être temporaire. À ce stade, tout celui qui pourra oser défier l'autorité prendra cher. Et si la population civile de Gaza dit « Ok, on comprend ce qu'on a fait », on comprend qu'on a permis au Hamas de faire ça, on veut maintenant le calme. Tranquillement, le contrôle militaire va construire une nouvelle direction et va libérer un quartier après l'autre, dans l'objectif de donner une autonomie sécuritaire et civile, à la condition de reconnaître l'existence de l'État d'Israël comme un État juif et démocratique. Voilà les plans adoptés. Et d'ailleurs, que tu saches, c'est le plan réaliste et unique. Est-ce que tu penses que la politique israélienne touchée aux civils est juste ? Écoute, on m'a posé aussi cette question dans les médias. Et j'ai demandé en retour, qui en accuse ? Tzahal ? C'est nous qui avons mis des innocents ? C'est nous qui avons mis des sangs où il y a des cibles terroristes du Hamas ? C'est Tzahal qui a fait ça ? Tu n'as pas compris ma question. La question n'était pas une critique de ne pas toucher les civils. Ma question était, est-il possible qu'on fasse trop attention à ne pas toucher les civils ? Écoute, je vais le dire de la façon la plus simple. Si des civils gazaouis naïfs sont touchés, c'est que déjà, ils n'ont pas écouté les instructions de l'armée. On est les seuls, d'ailleurs, à les informer et répéter longtemps avant chaque frappe. Sortez. On leur envoie des papiers par les airs. Sortez. Vous avez l'occasion de sortir. S'ils ne sortent pas et le Hamas les force à rester, en quoi on est responsable de ça ? J'ai une question supplémentaire. Pourquoi la sécurité des citoyens israéliens, des juifs et des arabes qui habitent ici, est-elle moins importante? Et la sécurité des soldats de Tsaïd est-elle moins importante? Le Hamas est responsable. Si Tsaïd doit effectuer ses opérations et afin d'exterminer le Hamas, à ce propos, faut-il changer de politique en Judée-Samarie? Je pense déjà qu'on voit cela à ce propos, c'est sûr. On voit déjà cela en faisant exploser une mosquée. D'ailleurs, parlons-en, parce que ça a été une sorte d'attentat de propagande. Mais soudain, je reçois les détails. Tu vois les tunnels, tu vois tout ce qu'ils ont mis en dessous. Tu comprends que c'est un changement d'attitude. Tu bombardes une mosquée que le Hamas a utilisée. À ce propos, vous voulez savoir un truc ? Dans le monde arabe, lorsqu'ils ont publié toutes les vidéos de propagande, même les médias arabes disent « Attendez, comme ça, le Hamas utilise un lieu de prière ?» Ça arrive dans toutes les guerres du monde arabe. Youssef, je te connais et reconnais la qualité de ton travail. Mais je te pose une question un peu difficile. Pourquoi il n'y a qu'un seul Youssef Haddad? Pourquoi il y en a moins que 10? Je vais te répondre. Écoute, premièrement, depuis qu'on a commencé la guerre, et depuis que je suis de plus en plus exposé aux médias, il y a une augmentation de 40 à 45% de volontariat dans mon association, qui est une association arabe israélienne. Hormis ça, les Arabes israéliens m'envoient des vidéos et me disent « Publie-nous, va sur ma page, tu vas voir. » Donne-moi les chiffres, que ça m'encourage, dit le journaliste. Youssef répond « Pour ceux qui parlent, on parle en dizaines. Alors attends, tu me dis des dizaines sur 2 millions, mais ce que tu ne comprends pas qu'au sein de la société arabe israélienne, par rapport à une piste de parole, il y a une peur folle des extrémistes violents, que j'ai vécu moi-même pendant des années. Et tu sais, une chose encore plus dingue. Pendant le Shabbat du 7 octobre, j'ai reçu un appel de l'un d'entre eux. Et j'espère beaucoup, il m'a appelé donc, et il m'a dit « Je veux m'excuser, j'ai bien compris. Et la dernière chose que je veux, c'est de vivre sous domination terroriste. Maintenant, c'est nous les premiers qui avons vu ça, pas vous. C'est nous qui avons vu ça dans les médias et réseaux sociaux arabes. C'est nous qui avons vu toutes ces atrocités. Il a vu et il a dit « Non, non, je ne veux pas ça et je vais finir par une chose. » Il y a une minorité extrémiste en Israël qui n'a pour aucune raison que ce soit le droit de lever la tête. Mais il faut comprendre une chose. Si eux, à Dieu, ne plaisent, ils décident de lever la tête en retour et que la police israélienne ne s'occupe pas d'eux avec la plus grande fermeté, nous allons perdre et toutes les personnes qui commencent maintenant à se montrer auront peur. Alors je m'adresse à la police israélienne. Ne laissez pas les extrémistes lever la tête. Youssef Haddad, merci d'être venu à l'émission. Tu es un super champion, mon frère. Bravo pour tout ce que tu fais. Oui, Elise, c'est édifiant, ce genre de témoignage. Et on a envie de dire que c'est rassurant de voir qu'il y a, même s'ils sont extrêmement peu nombreux, mais qu'il y a quand même une extrême minorité d'habitants arabes israéliens qui pensent comme Youssef Haddad. C'était bon. Et merci de nous avoir permis d'écouter ce témoignage, Elise.
Oui, Youssef Haddad, effectivement, on aimerait bien en avoir plus, comme lui disait le journaliste israélien, pourquoi vous êtes moins que 10, mais bon, l'un dans l'autre, c'est déjà pas mal qu'il soit là. Il y a des centaines de milliers de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux et ça fait changer aussi un certain nombre d'Arabes israéliens de camp et ça, pour Israël, c'est quand même très important.
Judaïka. Lise, avant qu'on ne se sépare, puisqu'il est midi 57 minutes, on fait un dernier point sur les dernières infos qui viennent de tomber.
Vous le savez, depuis vendredi soir, l'armée israélienne est rentrée dans Gaza. Elle intervient avec des blindés, des unités d'ingénierie, des drones, des hélicoptères de combat et des fantassins dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne qui a déclaré que des roquettes avaient été lancées depuis le Liban sur la région de Mondov à la frontière nord où se trouvent un certain nombre de positions militaires mais aucune ville. Saal a précisé que toutes les roquettes ont atterri dans des zones ouvertes sans faire de blessés. Elle a ajouté que les forces armées répondent par des tirs d'artillerie contre les sources des tirs de roquettes dans le sud du Liban. Une roquette tirée depuis la bande de Gaza est tombée sur la ville de Rishon LeZion. Les services de sécurité ont localisé le lieu et indiqué que l'incident n'avait pas fait de blessés. Et l'alerte à la roquette a aussi retenti il y a une heure environ dans les villes de Tel Aviv, de Rishon LeZion, de Holon, de Ra'anana, de Ramat HaSharon, de Kfar Saba et de Herzliya.
Israël va permettre, une augmentation considérable de l'aide à Gaza dans les prochains jours. C'est ce qu'a déclaré un responsable ce matin, appelant les civils palestiniens à se rendre dans ce qu'il a décrit comme une zone humanitaire dans le sud du territoire.
Oui, c'est le colonel Elad Goren du Kogat, l'agence du ministère israélien de la Défense qui coordonne les relations avec les Palestiniens, qui a déclaré au cours de la semaine à venir, nous prévoyons d'augmenter considérablement la quantité d'aide destinée à Gaza en provenance d'Égypte. Israël qui a rouvert notamment ce week-end le deuxième des trois pipelines qui fournissent de l'eau à la bande de Gaza, qui permet d'acheminer environ 28 millions de litres d'eau par jour dans ce territoire sous contrôle du Hamas, selon toujours le Kogat. Cette quantité représente un peu plus de la moitié de ce qu'Israël fournissait avant la guerre chaque jour. Le 9 octobre, Israël a coupé l'eau qu'il a envoyée à Gaza et aujourd'hui, on avait jusqu'à 9% de l'approvisionnement en eau de l'enclave côtière en temps de paix. Le Kogat indique qu'il y a désormais suffisamment d'eau et de nourriture pour répondre aux besoins humanitaires de Gaza, ajoutant que l'agence surveille constamment la situation dans le territoire.
Sur le terrain, les avions de combat de l'armée israélienne ont attaqué plus de 450 cibles militaires du Hamas dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'unité du porte-parole de l'armée israélienne.
Oui, et ça, elle a démenti ce qu'on disait au précédent journal et ce que indiquait Channel 12, que des terroristes du Hamas sortis d'un tunnel de Gaza auraient été tués dans des affrontements. Les équipes de soldats combinés de Tsahal ont attaqué des escadrons terroristes, mais pas en l'occurrence tué une vingtaine d'entre eux. Dans la nuit, un officier et un soldat ont été blessés et transportés tous les deux à l'hôpital. Le porte-parole de Tsahal, qui avait pris la parole comme tous les soirs désormais en vidéo, avait confirmé cette incursion terrestre et ses détails et également confirmé que le QG du Hamas se trouvait bien sous l'hôpital Shira à Gaza. La veille au soir, Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et Benny Gantz avaient tenu à la Kiria, le QG de la Défense à Tel Aviv, une conférence de presse commune dans laquelle ils ont redéfini les objectifs de la guerre et parlé des otages et donc rappelé à quel point la victoire était importante, pas seulement pour Israël, mais aussi pour l'Occident tout entier. Et enfin, dans la polémique qui a démarré sur X après un tweet du Premier ministre contre les chefs du Shin Bet et du renseignement militaire, Benjamin Netanyahou s'est depuis excusé pour son poste publié la nuit dernière. « J'ai eu tort, les choses que j'ai dites n'auraient pas dû être dites, je m'en excuse. J'apporte mon plein soutien à tous les chefs des services de sécurité. Je renforce l'état-major ainsi que les commandants et les soldats de Tsahal qui sont au front et se battent pour la maison. On se quitte sur ces mots. Ensemble, nous gagnerons. »